Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons placé notre confiance en Dieu, c'est parce que nous voulons lui faire confiance dans nos vies et parce que Jésus-Christ est mort. Nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans. Nous croyons aussi que la Bible est la vérité, que la Bible est la parole de Dieu révélée aux hommes, transmise de génération en génération depuis l'époque de Jésus, de Paul et jusqu'à nos jours. Alors la deuxième lettre à Timothée se trouve dans le Nouveau Testament et elle fait partie des lettres écrites par l'apôtre Paul. Et je propose que rapidement que nous parlions de l'apôtre Paul. Je sais que Benoît la semaine dernière en a parlé, que j'en ai aussi un peu parlé la semaine d'avant. Mais l'apôtre Paul a joué un rôle important dans l'évolution de la foi chrétienne. C'est lui qui a aidé à ce que la foi, l'évangile, dépasse les barrières du judaïsme. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. On estime qu'il aurait parcouru 4000 kilomètres. Alors de nos jours, ça n'impressionne plus personne, parce qu'on a des avions, on a des voitures, etc. Mais à l'époque, 4000 kilomètres, c'était énorme. Alors je vais vous faire participer. Que savez-vous de l'apôtre Paul, déjà de son origine, de sa famille? Où est-ce qu'il est né? Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider? Déjà, de où est-ce qu'il est né? À Tarse, en Cilicie. Ouais. Son père, quelle citoyenneté avait-il? Il était citoyen romain. Donc il était... Ouais.
Il est
De la tribu de Benjamin. Il a étudié avec qui? Gamaliel. Il a étudié avec Gamaliel, qui était un des grands enseignants à l'époque. Il a étudié avec le meilleur. Et puis, il a fait partie d'un groupe, aussi des dirigeants juifs, qui s'appelle le Sanhédrin. Alors, pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être marié. Donc, on peut supposer que Paul a été marié. Mais quand il s'est converti, tout ça, on n'entend pas parler de sa femme, donc on peut supposer que sa femme est décédée. Il a appris un métier. Ouais, il fabriquait des tentes. Il fabriquait des tentes. Il s'est converti comment? Il y a eu un gros feu rouge, oui. Il était sur le chemin de Damas. Il n'aimait pas du tout les chrétiens. Il allait pour les mettre en prison, pour les obliger à abandonner la foi. Et Jésus s'est révélé à lui. Une grande lumière, dit le texte, s'est survenue. Et Jésus lui-même s'est adressé à Paul. Pourquoi? Jusqu'à quand me persécuteras-tu? Et suite à cette rencontre avec Jésus, parce que Jésus était ressuscité et glorifié, c'était après la mort de Jésus, Paul est devenu chrétien. Puis une fois qu'il a été chrétien, il a très vite enseigné. On l'avait vu avec Barnabas, il était à Antioche pendant un an, et puis après il est parti en voyage pour annoncer l'évangile dans différents endroits. Alors on ne va pas retracer les différents périples de Paul. Je vous ai dit qu'il a beaucoup voyagé. Dans le livre des Actes, si vous êtes intéressé par sa vie, vous pouvez lire le livre des Actes et vous verrez son premier voyage, son deuxième voyage et son troisième voyage. Et vous voyez qu'à la fin du troisième voyage, il est arrêté par les Romains. Il est emprisonné dans un premier temps à Césarée, pas très loin de Jérusalem. Et ensuite, comme il a fait appel à l'empereur romain, ils l'ont emmené à Rome pour être confronté, pour avoir l'avis de l'empereur sur sa culpabilité, parce que les Juifs l'accusaient d'un certain nombre de choses. Donc le livre des Actes s'arrête ici. Il arrive à Rome, chapitre 28, et il est emprisonné à Rome. Mais sa vie ne s'arrête pas là. Si le livre des Actes s'arrête ici, sa vie ne s'arrête pas là. On a, au travers d'autres sources, et aussi au travers des différentes épîtres de la fin de sa vie, nous savons qu'il a été libéré, qu'il est reparti en voyage, et il a visité les églises de Macédoine, il est allé en Crète, et il est très fort probable qu'il soit allé jusqu'en Espagne, voire Maïté. Voilà. Puis après, il soit revenu. En fait, il a été en Espagne durant l'année 64-65. Et 64, si vous connaissez votre histoire romaine, qu'est-ce qui s'est passé en 64 ? Néron a incendié Rome. D'accord ? C'est l'époque de Néron. C'est là où les chrétiens ont été ensuite persécutés très très fortement. Paul est revenu, il a encore voyagé, il a été à nouveau arrêté, probablement à Philippe, non, probablement à Éphèse ou à Troas, on ne sait pas, et ensuite il est allé à Rome, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Là, il était dans une prison avec un cachot, c'était sombre, et voilà. Et c'est là qu'il a écrit cette deuxième lettre à Timothée. Il savait que sa fin était proche, puisqu'il a été décapité ensuite sous Néron en 68, donc très peu de temps après avoir écrit cette deuxième lettre. Il savait que sa fin était proche. Alors on a le privilège...
T'avais quelque chose à montrer ?
Voilà. On a le privilège d'avoir un certain nombre de lettres écrites par Paul. Et ces lettres, on peut les classer de différentes manières. Je fais juste une parenthèse, voilà. Pourquoi les lettres de Paul sont classées comme elles sont classées dans nos Bibles ? Quel ordre a été respecté ? Alors, il y a le premier critère de tri, c'est les destinataires. On a mis en premier... quand les destinataires étaient des églises ou des groupes d'églises, et à la fin, c'est qui était adressé à des personnes. C'est pour ça que vous avez Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et à la fin, vous avez Timothée, Philémon. Et puis ensuite, dans ces deux grandes parties, elles ont simplement été triées par longueur. La plus grande au début, et la plus courte à la fin. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que les chrétiens qui ont construit le livre du Nouveau Testament, voilà, ils l'ont mis dans cet ordre-là. Les églises, les personnes, dans les églises de la plus grande à la plus petite, de la plus grande à la plus petite. Mais c'est intéressant, et je vous encourage une fois de le faire, c'est de lire les lettres de Paul dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites. Non, pas dans le sens inverse. Et c'est intéressant, Médéric va vous montrer. La première qui a été écrite, on pense, hein, c'est l'Épître aux Galates. Ensuite, il y a eu 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens et Romains. Et ce sont des épîtres qui sont envoyés à des églises jeunes. Des gens qui viennent de se convertir. Le but de Paul, c'était d'affermir ces églises. Et puis ensuite, les lettres suivantes qui ont été écrites un petit peu plus tard... ce sont des églises, des lettres pour encourager les églises déjà existantes. Et là, on retrouve les lettres d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Et puis, à la fin de sa vie, ce sont les trois lettres qu'il envoie à des personnes. Et son but, c'est vraiment non seulement d'encourager les chrétiens, mais aussi d'envisager aussi la reproduction. Hein. Voilà, comment faire pour que la foi chrétienne reste basée solidement, ancrée dans les paroles de Jésus, dans la vérité, pour lui, pour ceux à qui il a prêché l'évangile, et pour les générations suivantes. Voilà. Donc vous avez 1 et 2 Timothée et Tite. Alors on va un tout petit peu parler de Timothée. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter la prédication de la semaine dernière, qui est sur le site internet de l'Église. Mais on va quand même parler de Timothée, parce que Benoît a parlé de Timothée, de la transmission de la foi entre Paul et Timothée. C'est à une personne que Paul aimait beaucoup. Il est originaire de Lystre. Alors,
est-ce que tu as... On te voit.
Il est originaire de Lystre, dans la province de Galatie. Son père est grec, sa mère s'appelle Eunice. On a un certain nombre d'informations sur sa mère, sa grand-mère, Loïs, son nom, qui était d'origine juive. Elles se sont converties grâce à Paul. Timothée, lui aussi, s'est converti grâce à Paul lors du premier voyage missionnaire de Paul. On peut supposer qu'il a même été témoin des souffrances de Paul et Barnabas qui ont failli être lapidés hein, quand ils étaient au cours du premier voyage missionnaire de Paul. Donc ça, c'est sa conversion. Ensuite, quand Paul est revenu dans son deuxième voyage visiter l'église où il était, on a dit beaucoup de bien de ce jeune homme, parce qu'il était jeune, et Paul a voulu le prendre avec lui dans son équipe missionnaire. Donc il est parti. Il est parti avec Paul. Et comme ça, pendant pratiquement 15 années, il a travaillé aux côtés de Paul en tant qu'aide, en tant que secrétaire, en tant qu'homme de confiance, collaborateur dans tout ce que Paul a fait. Quand Paul était à Rome la première fois, emprisonné, il était là aussi. On pense qu'il a été également lui-même emprisonné, relâché. Et quand Paul écrit cette deuxième lettre, on peut penser qu'il a autour de 35 ans. Voilà. Au niveau caractère, c'est un homme plutôt timide. Et on sait que sa santé était fragile. Et pourtant, quand on voit tout ce qu'il a pu faire en compagnie de Paul, voilà. Je pense qu'il s'est vraiment donné pour l'évangile.
Vas-y, monte voir. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ouais. Donc l'auteur, c'est Paul, en prison à Rome. Le destinataire, Timothée, qui est à Éphèse. Éphèse, alors il y a une grande histoire entre Paul et Éphèse. Paul est celui qui a fondé l'église d'Éphèse. Il y est resté 3 ans. Quand on voit que parfois il restait quelques jours ou quelques semaines, c'est l'endroit où il est resté le plus longtemps. On sait qu'il est resté 18 mois à Corinthe, et là à Éphèse, il est resté 3 ans. Donc il y a une grande histoire d'affinité entre Paul et la ville d'Éphèse. On peut lire l'histoire, donc si vous êtes intéressé. Donc j'ai dit donc la date d'écriture de la lettre 67-68 sous Néron. Paul et l'église d'Éphèse, c'est acte 19, on voit le récit de la création de l'église, et puis on a en acte 20, versets 16 à 38, quand Paul revient à Jérusalem, il n'a pas le temps d'aller à Éphèse parce qu'il est en bateau, Éphèse c'est un peu plus loin, il appelle les anciens et il prie avec les anciens parce qu'il sait qu'il ne les reverra pas, il pense qu'il ne les reverra pas. Ce qui est faux parce qu'il les reverra quand même. Mais bon, lui pensait que c'était pour lui la fin de son ministère. Donc voilà, il y a un très beau moment, de très très émouvant entre Paul et les responsables de l'église d'Éphèse. Donc, à l'époque où Timothée y est, il est délégué par Paul pour un petit peu organiser l'église, diriger l'église. C'est une église qui a environ 12 ans.
Alors, vas-y, Paul et Timothée. Donc, si vous voulez savoir le début de l'histoire entre Paul et Timothée, c'est acte 16, versets 1 à 3.
Et puis, voilà, c'est le dernier écrit de Paul. Moi, je trouve ça assez, assez émouvant de savoir ça. Je ne sais pas, imaginez quelqu'un qui vous est proche, Et puis, de savoir qu'il a écrit une lettre où il exprime plein de choses et que ça, c'est les dernières choses qu'il a exprimées. C'est quelque chose qui doit vous... Voilà, qui est vraiment... pour moi, c'est vraiment assez émouvant de savoir cela. Et je crois que c'est bien de lire cette épître en se souvenant de ça. Paul est en prison, il sait qu'il va mourir. Et il écrit cette dernière lettre à Timothée, qui est son plus proche collaborateur. C'est Luc a certainement aidé à la rédaction de la lettre, et le texte nous parle de Tychique, qui est celui qui va probablement amener la lettre à Éphèse. Alors oui, alors là, je pense que j'ai une carte. Voilà. C'est l'Empire romain, et puis voilà, vous avez ici Jérusalem. Vous avez Éphèse, et puis vous avez Rome, ici, et l'Espagne. Pour Maïté, Espagne. On sait qu'il a laissé des affaires à Troas, puisqu'il demande à Paul, à Timothée de les ramener. Donc il va demander à Timothée de venir le voir à Rome. Il a envie de le revoir. Non seulement il l'invite à venir à Rome, mais il lui donne encore des instructions, parce que finalement il n'est pas sûr de le revoir. Il ne sait pas quand aura lieu son jugement, il sait que c'est la fin pour lui. Donc c'est un petit peu un testament spirituel de Paul à Timothée. Et je voudrais, alors, c'est une lettre personnelle, hein, c'est une lettre adressée à une personne. Cette personne est responsable d'église. Et on pourrait se dire, ah ben oui, mais c'est adressé à un responsable d'église, donc ça, moi, ça ne me concerne pas. Mais en fait, c'est une lettre qui était aussi destinée, bien évidemment, à être lue à toute la communauté chrétienne, donc aussi aujourd'hui à chacun de nous. Et comme je l'ai rappelé, elle s'inscrit dans le cadre de la transmission de la foi, le passage de témoin entre deux générations de chrétiens, et nous, on est aussi dans ce cadre-là. On a reçu l'Évangile parce que des gens nous l'ont annoncé, et puis nous sommes aussi appelés à annoncer l'Évangile pour que d'autres puissent croire, et que cela continue de génération en génération. Nous sommes nous-mêmes appelés à grandir dans la foi, et que cette croissance se fasse au sein de la communauté qu'est l'Église. Nous entrons quand on devient chrétien, on est en formation. C'est Dieu qui nous forme, dans laquelle notre foi grandit, s'affermit, et puis aussi dans lequel notre foi, eh bien, on cherche à la transmettre. Alors si cette lettre à Timothée décrit un petit peu qui est un serviteur de Dieu, je suis persuadé, convaincu que nous sommes tous des serviteurs de Dieu à plein temps. En tant que chrétien, on est serviteur de Dieu à plein temps. À partir du moment où on se réveille le matin, et puis même pendant la nuit, dans l'endroit où nous sommes, au sein de notre famille, au sein de notre quartier, au sein de notre commune, dans notre travail, dans le contexte de notre travail, de nos études, dans notre cercle d'amitié, dans notre famille plus élargie. Voilà, partout où nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous à plein temps, il n'y a pas que moi. Moi, ce n'est pas parce que je travaille à plein temps dans l'Église que je suis plus serviteur de Dieu à plein temps que vous. Alors, les instructions que donne Paul, ça concerne bien évidemment la foi. Ce sont des instructions spirituelles, mais aussi pratiques. Et je voudrais simplement, je ne vais pas rentrer dans le texte, parce que le texte, je vous le laisse le découvrir, pour qu'on puisse ensemble le partager, mais je voudrais juste partager ce verset, qui est pour moi un verset important. Le chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Efforce-toi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Sinon, il ne dirait pas « efforce-toi ». C'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile. C'est quelque chose qui demande la mise en œuvre de notre volonté. Je, déjà, si on a déjà « oui, je veux », c'est déjà un bon début. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Devant Dieu. Notre vie, nous la vivons devant les hommes, mais nous la vivons aussi devant Dieu. Et autant devant les hommes, on peut paraître, on peut cacher, dissimuler. Au devant Dieu, on ne peut pas, on ne peut rien cacher à Dieu. Et l'important ici, c'est que devant Dieu, en tant que serviteur, voilà, nous soyons comme des hommes et des femmes qui ont fait ses preuves, qui ont fait leurs preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Quelqu'un qui a fait ses preuves. Il y a, dans cette expression, l'idée que nous sommes en train d'apprendre et que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on fait ses preuves, c'est en faisant. Voilà. Quand tu es en stage pratique, quand à la fin, la personne, elle ne te dit pas que tu as fait tes preuves au début, mais elle le dit à la fin. C'est parce que tu as pratiqué. Dans la foi chrétienne, c'est pareil. Faire ses preuves, c'est entrer dans la vie avec Dieu, agir en lui faisant confiance, et c'est cette idée de persévérance avec Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Il y a l'idée là de fidélité, d'être fidèle au patron, on est un ouvrier du patron, et puis qui expose avec droiture la parole de la vérité. Il y a cette idée là d'être droit, d'être conforme à la vérité, de rechercher ce qui est vrai, de rechercher ce qui est juste, de rechercher de ce qui est digne de louange. Maintenant, quelques pistes pour l'étude que nous aurons à faire chacun, les uns et les autres. Alors, l'épître est découpée comme une lettre, elle est structurée comme une lettre, donc au début, il y a évidemment des salutations. À la fin, il y aura aussi une conclusion. Quand vous écrivez une lettre, vous dites « cher papa ». Et à la fin, vous dites « je t'embrasse, à bientôt ». Et puis, après ces salutations, eh bien, Paul écrit, en fait, aborde différents thèmes. Et le premier thème qu'il aborde est l'attitude vis-à-vis de l'évangile, de l'évangélisation. Il y a un mot qui reviendra 3 fois dans ce chapitre, c'est le mot « honte ». Quand il dit « je n'ai pas honte de l'évangile ». Je n'ai pas eu honte des souffrances. Telle personne n'a pas eu honte. Et on voit ici un positionnement intéressant, une réflexion intéressante à mener durant notre lecture. Et puis ensuite, il aborde le thème de l'Église. Et dans l'Église, il va souligner l'importance de la parole de Dieu. L'importance que doit prendre la parole de Dieu dans nos vies comme une ressource, comme une nourriture, face au monde qui est en face de nous. Aussi l'importance de prêcher la parole. Et à la fin, il aborde des sujets qui sont plus personnels, hein, Timothée et lui-même. Quand il va lui dire, viens me voir, emmène les affaires que j'ai laissées, etc. etc. Voilà. Et puis donc, il y a une conclusion. Voilà un petit peu la structure de cette lettre. Alors on est en...
Qu'est-ce qu'il y a après ? Voilà.
Donc, je nous invite à réfléchir sur ce thème du serviteur de Dieu, au travers de notre lecture, au travers du premier chapitre,
sur le témoignage.
Qu'est-ce que ce premier chapitre nous apprend sur le témoignage pour Jésus-Christ ? Qu'est-ce que le deuxième chapitre nous apprend sur l'attitude du serviteur de Dieu? Qu'est-ce que le troisième chapitre nous apprend sur l'importance de la Bible? Qu'est-ce que le quatrième chapitre, en tout cas le début, nous enseigne sur la manière de prêcher la parole?
Donc ça, c'est un petit peu des questions liées à la structure.
Et puis plus généralement, au travers de cette lettre, Paul rappelle des choses que nous avons ou que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et c'est aussi une autre type de lecture qu'on peut avoir au travers de toute la lettre, de voir qu'est-ce que Paul dit de ce que nous avons en Jésus-Christ. Chaque fois que vous voyez l'expression « en Jésus-Christ » ou « au travers Jésus-Christ » ou « avec Jésus-Christ », etc. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est des choses qui sont fondamentales et qui vont fortifier notre foi. Et puis, bien évidemment, il y a l'étude des personnages, de ce qu'on peut découvrir de Paul, de Timothée ou d'autres personnages qui sont dans la lettre. On peut essayer de réfléchir à leur attitude, à leur engagement, etc. Ça peut aussi être une piste de réflexion pour nous. Ce que les différents personnages nous apprennent. Voilà, je voulais pour terminer rappeler juste un outil.
Qu'est-ce que j'ai mis?
Ah, c'est bien, mais c'est pas écrit. Mais par contre, j'ai prévu de vous distribuer. Alors chacun, vous prenez une feuille chacun, c'est un résumé de ce que j'ai dit. Et à la fin, là, voilà. Vous pouvez écrire des choses. Je rappelle la méthode ici que j'ai écrite au dos. Comment est-ce qu'on étudie la Bible? La première chose qu'on doit faire, c'est de regarder que dit le texte. Et puis après, il faut réfléchir à ça. Il faut essayer d'interpréter, c'est-à-dire, mais que veut dire le texte? Parce que par exemple, quand il parle du laboureur, d'accord, il parle d'un laboureur. Mais pourquoi est-ce qu'il parle d'un laboureur? Voilà. Et ensuite, la troisième question qu'on peut se faire, qu'on doit se poser vis-à-vis du texte, c'est que veut dire le texte aujourd'hui pour moi? C'est ce qu'on appelle l'actualisation ou l'application du texte à ma propre vie. Qu'est-ce que ce texte, que Dieu veut me dire au travers de ce texte pour moi aujourd'hui, chrétien du 21e siècle? Voilà. Donc c'est ça, ce qu'on appelle mnémotechnique, c'est OIA, observation, interprétation, application. OIA. Mais voilà. Donc j'ai prévu de vous distribuer ça, alors vous allez en prendre un chacun. Et puis pour vous aider, je vous ai mis aussi la chronologie de la vie de Paul depuis sa conversion jusqu'à sa mort, avec les dates aussi d'écriture des différentes épîtres. Donc vous pouvez aussi en prendre un chacun. Le but, c'est que ce petit papier sur 2 Timothée, il vous serve, oh, je sais bien qu'on est tous pareils, hein, de rappel. Parce qu'on dit, ouais, c'est le livre du mois, et puis on passe lundi, mardi, mercredi, puis le livre du mois, on l'oublie. Et puis on arrive 2 jours avant, le jour où on fait le partage, et puis on... Donc si ça peut vous servir de rappel, et si ça peut vous servir de support à votre lecture et à votre réflexion, voilà. C'est un double objectif. Donc, le partage autour du livre de Timothée se fera le dimanche 2 octobre. Mais je le rappellerai, ça veut dire qu'on a un mois pour le lire. Il y a 4 chapitres. Alors si vous avez peu de temps, lisez-le une fois. Mais si vous avez plus de temps, lisez-le une fois par semaine. Comme ça, à la fin, vous l'aurez lu 4 fois. Et vous aurez eu le temps de réfléchir et de laisser Dieu vous parler. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir lu, c'est que Dieu nous parle pour qu'on puisse mettre en application sa parole dans notre vie. C'est ça le plus important. C'est que sa parole devienne quelque chose de concret pour nous, qui nous enseigne, qui nous transforme et qui nous aide à vivre notre vie de tous les jours. Donc lisez-le, prenez le temps. Et puis vous pouvez utiliser les différents axes que je vous ai donnés. Vous pouvez en utiliser qu'un seul. Vous concentrez sur... Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais l'important, c'est que pour moi et pour Dieu, c'est que la parole de Dieu soit ancrée en nous et qu'elle porte du fruit dans nos vies.